Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, je suis très heureuse, comme vous le savez, de vous retrouver chaque semaine. Si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à la proposer à votre entourage. Certaines sont filmées, vous pouvez les retrouver sur YouTube en tapant France Andrieux et en toute bonne foi le nom de l'émission. Vous pouvez aussi retrouver toutes les émissions passées sur le site de Radio Courtoisie en tapant rc.fr, on peut faire plus simple, et vous recherchez ensuite par patron d'émission ce que vous souhaitez écouter. Mes confrères seront ravis que vous découvriez leurs émissions aussi. N'oubliez pas de faire un don, car si nous pouvons continuer à traiter de tous les sujets qui nous tiennent à cœur, c'est grâce à notre liberté de parole que nous acquérons grâce à vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce saint qui dérange le diable, saint pour nous, mais pas encore officiel. Tel est le nom d'un chapitre du livre de Patrizia Cattaneo que j'avais déjà reçu l'année dernière dans l'émission Magnificat. Bonjour Patrizia.
Bonjour France et merci de m'avoir invitée à parler à vos micros.
Je suis ravie et je vous remercie que vous veniez de nouveau. Donc bienvenue pour ce nouveau livre qui nous présente le père Matteo Dagnon. Alors pardon pour mon accent, mais je l'appellerai le père Matteo, ce sera plus simple. Dans cet ouvrage intitulé « Un exorciste chez vous » aux éditions Résiac, près de 220 pages que nous ne voyons pas défiler. Par contre, nous voyons les phénomènes extraordinaires, étonnants et parfois impressionnants. Si vous ne croyez pas au diable après la lecture de ce livre, vous n'aurez pas de doute. Mais attention, ce n'est pas du voyeurisme, nous voyons toute la force du bon Dieu dans la lutte contre le mal, la puissance de Dieu en action. Ce livre est un secours dans les moments de découragement où l'on se dit que le mal trop prégnant dans notre vie nous dévorera. Non, ce père Matteo qui l'a combattu est un puissant intercesseur. Guérison, conversion, délivrance sont autant de grâces reçues pour ceux qui l'implorent. Alors découvrons-le aujourd'hui. Mais tout d'abord, Patrizia, je vais de nouveau vous présenter à nos auditeurs. Vous êtes italienne, journaliste et écrivain, conférencière. Vous organisez aussi des retraites de guérison avec des prêtres, bien sûr, et pour la France et en français.
Bien sûr.
Vous en avez une prévue prochainement?
Oui, à la tombe du Père Matteo et à la tombe de Saint Padre Pio du 23 au 26 avril. Et des retraites fin février, des retraites avec un prêtre exorciste dans le nord de l'Italie, fin février, avril et juin, tous les deux mois.
Alors, comment pouvons-nous faire pour nous inscrire?
Il faut aller sur le site jésusguérit.com et m'envoyer un message. J'enverrai le programme et tous les détails pour l'inscription.
Merci, Patrizia. Alors, remontons le temps pour arriver au XVIe siècle et découvrir Prospero Lolli, qui deviendra le père Matteo Dagnone. Il va à l'université de Naples, suit des cours à la faculté de philosophie et à la faculté de médecine. Mais la beauté de l'idéal franciscain rayonna tellement dans son esprit qu'il préféra, dites-vous, devenir capucin afin de pouvoir connaître davantage, à la lumière de celui-ci, les vérités de la théologie et devenir ainsi médecin des âmes. Il fit son noviciat et après un bref séjour dans la province religieuse de Naples, il devient donc capucin. Alors, vous allez nous parler, bien sûr, aujourd'hui du père Matteo, mais il y a un homme important, contemporain, puisqu'il est décédé il y a quelques années, qui nous a permis de découvrir qui était le père Matteo. Je voudrais parler du père Cipriano de Meo. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, s'il vous plaît?
Bien sûr, avec plaisir. Alors, le père Cipriano de Meo a été un prêtre capucin exemplaire, considéré comme le doyen mondial des exorcistes, oui, parce qu'il a exercé le ministère d'exorciste pendant 68 ans. En fait, il a aidé des milliers de personnes par ses exorcismes et son discernement, et c'est lui qui a retrouvé la tombe du père Matteo Dagnone, un capucin exorciste du XVIIe siècle, pendant qu'il exerçait son ministère dans l'église des Capucins de Serra Capriola, un petit village dans les Pouilles, et par la suite, il a ouvert la cause de canonisation du père Matteo. Il a retrouvé aussi les écrits du père Matteo dans des archives en Italie, mais aussi à la Bibliothèque nationale de Paris. Paris. Et toute sa vie a été consacrée à la prière, à l'étude, à la délivrance du démon et surtout à diffuser la dévotion au Père Matteo d'Agnone. Et pour moi, je dois avouer qu'il a été un guide spirituel précieux pendant 13 ans que je l'ai fréquenté et que j'ai accompagné chez lui des centaines de pèlerins francophones.
Alors, ce père Cipriano a aussi créé des groupes de prière.
Exactement.
C'est
Alors,
important d'en parler.
il a fondé le groupe de prière intitulé à Sainte Marie des Anges et de l'Espérance, qui est pour soutenir la cause de canonisation du Père Matteo d'Agnone et diffuser sa dévotion, et toujours dans la communion ecclésiale, parce que ces groupes se réunissaient presque toujours à l'heure des exorcismes pour aider l'exorciste dans sa mission difficile et délicate. Et ces groupes se réunissaient chaque semaine à l'église pour prier le rosaire, méditer les écrits du Père Matteo et prier pour les malades et les consacrés, demander des vocations au Seigneur. Et ils se sont répandus dans plusieurs régions d'Italie et ont porté de nombreux fruits spirituels. Mais après la mort du Père Cipriano, ils ont été arrêtés par le successeur du Père Cipriano, le vice-postulateur actuel. Cela a provoqué un scandale et selon plusieurs témoignages, l'arrêt se serait fait sur la base de prétextes dérisoires invoqués par les nouveaux responsables capucins. Et c'est très triste parce qu'aujourd'hui, presque personne ne prie plus et arrêter une quarantaine de groupes de prière, c'est vraiment horrible.
Bien entendu, on sent le pouvoir du mal. Nous reparlerons de la cause en béatification à la fin de l'émission parce qu'il faudra vraiment évoquer la chose. Alors, à présent, venons-en donc au Père Matteo. Je voudrais préciser que contrairement à ce que je disais, non, je l'ai effectivement dit, il est du 16e siècle parce qu'il est né en 1563, mais c'est
Oui.
surtout le siècle suivant qu'on l'a découvert. Alors, pouvez-nous présenter le Père Matteo, s'il vous plaît?
Oui, alors le Père Matteo était un capucin, un frère capucin qui a découvert avoir un excellent pouvoir de chasser le démon. Et aujourd'hui, ce pouvoir est mis en doute par les frères capucins et par des théologiens qui suivent la cause, parce que c'est une discussion stérile, d'après moi, parce que certains savants pensent qu'il ne peut pas être appelé exorciste, parce qu'il n'existait pas encore le mandat d'exorciste à
Ah
son
oui.
époque. Et donc, il n'a pas reçu le mandat d'exorciste officiel, c'est sûr, tout simplement, parce qu'il n'existait pas encore. Il n'a été institué que 2 ans avant la mort du Père Matteo. Il était gravement malade à l'époque. Ainsi, le Père Matteo est considéré comme exorciste, non pas pour un titre, mais pour les résultats. Il terrorise les démons et les faisait fuir. Et c'est la mission qu'il continue de faire du ciel.
Alors, la catégorie des gratiés gratis data, comme l'explique saint Thomas d'Aquin, n'est-ce pas? C'est donc un
Exact.
charisme.
Exact. Donc, alors, plus qu'un charisme, c'est la sainteté, parce que le charisme se termine avec la mort, tandis que la sainteté continue, la sainteté et la communion avec Dieu, parce qu'après sa mort, on ne peut pas dire que le charisme s'est arrêté. Donc, au niveau théologique, il est plus probable que ce soit la communion avec le Seigneur, bien sûr, qui l'aidait dans cette mission de chasser le démon plutôt qu'une gratia gratis date, c'est-à-dire un simple charisme. Et c'est pour cela qu'on insiste avec la canonisation du Père Matteo, parce que tout nous dit, tous les miracles, les délivrances actuelles nous disent qu'il est vivant plus qu'avant.
Alors, il s'est passé quelque chose de terrible pendant son enfance, absolument épouvantable. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet accident, s'il vous plaît?
Oui, alors pendant son enfance, un jour, il est sorti de la maison pour aller à l'école avec un camarade de 6 ans, il avait 18 ans, mais à l'époque, il y avait une grande différence. Les écoles réunissaient les enfants de tous les âges. Et cet enfant avait amené avec lui un pistolet qu'il avait en cachette de son père. Et le père Matteo, qui à l'époque s'appelait Prospero Lolli, a pris le pistolet pour jouer, pour l'examiner. terminé, mais un coup, une balle est partie et a tué son cher ami. Il a dû fuir pour ne pas être tué à son tour par la famille de la victime et il est parti, il s'est réfugié à Naples et avec la complicité de ses parents qui voulaient le soustraire, bien sûr, à la mort certaine. Et il a toujours porté la blessure de cet accident dans son cœur pendant toute la vie. Et à la fin, quand il est devenu frère capucin, peut-être que c'est cet accident qui a déclenché en lui le désir de pénitence et de devenir, de se consacrer complètement à Dieu et de réparer tout ce qu'il avait fait, malgré son épée. Il n'était pas coupable, il n'a jamais été considéré coupable, même pas par la loi humaine. Et quand il a été ordonné prêtre, il a pu rencontrer la maman de son petit copain et qu'il a embrassé et il a considéré, il a pris comme son fils.
Oui, ça c'est absolument incroyable.
Exact.
Le père Matteo était christocentrique et marial, dites-vous. Il avait une grande dévotion mariale. Comment
Oui,
le sait-on?
exact. Alors, avant tout, la spiritualité du Père Matteo était christocentrique et mariale en même temps, car chez lui, le Christ était le centre et Marie le chemin le plus sûr pour y parvenir. Et jour et nuit, on le trouvait en prière devant le tabernacle et devant la croix du Christ. Et il a été un ardent défenseur de l'assomption de la Vierge au ciel en corps et âme, 4 siècles avant la proclamation du dogme
Oui.
et dans le sillage de la tradition franciscaine. Parce que les franciscaines se sont battues pour le dogme de l'Assomption, mais aussi pour le dogme de l'Immaculée Conception de Marie.
Alors, on dit que le démon l'a appelé le colonel de la Vierge.
Oui. Alors là, il appelait colonel de la Vierge avec mépris. Mais ce qui fait que le Père Cipriano a repris cette expression, disons ce titre, pour avec fierté,
Oui.
pour souligner l'amour du Père Matteo à la Vierge Marie, celle qui nous défend du démon. C'est la première des armes que nous avons pour combattre. Disons les attaques des ténèbres.
Oui. Il y a quand même une chose qui m'a étonnée. Comment est-ce qu'il a su que la Sainte Vierge n'avait pas souffert au moment de la naissance de Jésus? Est-ce qu'il l'a appris, il l'a su, ou alors ce sont ses réflexions qui l'ont mené à penser ça?
Et je crois que oui. Alors, le Père Matteo ne défendait pas cela comme une option personnelle, mais comme une conclusion théologique enracinée dans la tradition franciscaine depuis des siècles. 250 ans avant, Dan Scott, une capucine franciscaine, a défendu l'Immaculée Conception de la Vierge Marie à la Sorbonne de Paris. Donc, le Père Matteo s'insère dans le sillage de cette tradition, mais il a étudier encore mieux, disons, la question. Et comme Marie, dans la pensée franciscaine, qui n'était pas encore transformée en dogme, était préservée du péché originel, alors, par conséquence, aussi la douleur qui est une conséquence du péché originel,
Oui.
dans cette logique aussi, la Vierge Marie a été préservée aussi de la douleur et n'a pas souffert lors de la naissance du Christ. Et donc, sont des études qu'il a menées, des études rigoureuses fondées sur la théologie.
Eh bien, nous allons faire une petite pause à présent.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Nous parlons du père Matteo Danione pour le livre Un exorciste chez vous, écrit par Patrizia Cattaneo aux éditions Résiac. J'ai vu aussi que le père Matteo avait fait de nombreux miracles. Je me suis dit, c'est un peu les noces de Cana, cette histoire, avec le pain de la famille des Biagio de Porfirio et le vin avec la famille Cellillo. Des anges l'ont même transporté. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire incroyable?
Oui, alors on raconte par exemple les témoins de l'époque, hein, c'est écrit sur les registres franciscains de l'époque, que le pain se multiplia pour une famille pauvre, celle de Biagio de Porfirio, après la bénédiction du Père Matteo, et que des barriques vides dans des caves se remplirent de vin, et ça rappelle justement, comme vous le dites, les noces de Cana.
Eh oui.
Et d'autres récits parlent d'huile qui manquait, qui s'est mise à déborder après sa bénédiction, ou encore de récoltes desséchées, redevenues fertiles après son passage. Et il arrivait parfois à destination transporté par les anges. Il était très souffrant, il boitait. Et alors, les anges, pour l'amener dans les lieux où il devait arriver, il avait des rendez-vous à temps, venaient le chercher et le transporter avec ses compagnons, pas tout seul, hein. Attention, parce que les franciscains ne voyageaient pas seuls, ils étaient toujours à deux ou à trois minimum. Et donc, l'un des lieux où les anges l'ont pris en charge, pour ainsi dire, pour le conduire avec ses compagnons, est appelé la Vallée des Anges. C'est à quelques kilomètres de sa tombe et abrite aujourd'hui un hôpital orthopédique qui porte son nom, orthopédique parce qu'il souffrait de la
Des
hanche.
pieds.
Il marchait et c'était pour lui une douleur terrible de marcher. Et je le répète, ce sont ses compagnons capucins qui ont témoigné de cela à son époque.
C'est quand même incroyable, hein? Il était aussi
Bien sûr.
thaumaturge de son vivant et prophétisait.
Oui, alors de son vivant, le Père Matteo a manifesté le don des miracles, de guérison, de prophétie, de discernement, et surtout c'est lui de convertir les cœurs par sa prédication, ce qui est l'essentiel, et ce qu'on peut considérer comme des miracles spirituels. Après sa prière, des malades gravement atteints ont guéri, certains ont retrouvé la vue, la parole, et concernant le don de la prophétie, il a annoncé les épreuves qui allaient frapper sa ville natale d'Agnone à cause des divisions et des péchés de ses habitants. Et quelques années plus tard, les événements qu'il a prophétisés se sont effectivement produits. Et il a aussi démasqué une fausse apparition mariale mise en scène par des escrocs, ce qui serait très, très utile aujourd'hui où des apparitions de toutes sortes se multiplient.
Oui, tout à fait. Alors, comme nous le disions en début d'émission, le Père Matteo œuvre énormément de nos jours. À la lecture de votre livre, lorsque vous nous avez présenté toute sa vie, au début, je sentais que bah, voilà, le XVIIe siècle était quand même bien loin. Et puis, soudain, en poursuivant ma lecture, j'ai vu ce pont entre hier et aujourd'hui, comme cette communion des saints, n'est-ce pas, qui nous unit dans le temps avec le ciel. Nous ressentons cette proximité incroyable avec ce capucin si présent. Et donc, toujours maintenant, il œuvre. Et vous parlez d'une famille qui s'est retrouvée dans l'embarras en louant son appartement à un sataniste. Il faut que vous nous racontiez cela, s'il vous plaît.
Oui. C'est là, c'est le point de départ, hein, pour moi, disons.
Oui.
Tout a commencé lors d'une retraite spirituelle que j'ai fait il y a 10 ans dans le nord de l'Italie où j'habite, où je ne connaissais personne. Alors, à table, une mère et sa fille ont raconté l'épreuve terrible qu'elles avaient endurée pendant 4 ans, sans savoir que j'avais écrit le livre sur le Père Cipriano qui les avait conduites à la solution. Alors, elles avaient loué un appartement à un homme qui s'est révélé un sataniste. Et elles se sont retrouvées injustement impliquées dans des procédures judiciaires à cause de lui, ont perdu beaucoup d'argent, la paix, la santé, et malgré leur acquittement, il était impossible de l'expulser. Elles ont tout fait. Elles sont alors allées voir le père Cipriano, dont je venais de publier un livre en Italie, qui leur a conseillé de prier avec foi le père Matteo, leur a donné une image et lui a dit d'accrocher son image sur le mur mitoyen et lui a assuré que cet homme partirait dans les 8 jours après avoir prié le père Matteo. Les femmes n'avaient plus rien à perdre après 4 ans de bataille. Elles ont obéi, on a intensifié la prière et le pardon surtout. Et 8 jours plus tard, exactement, la voiture du sataniste a pris feu et il est parti désespéré car tout ce qu'il avait fait s'est retourné contre lui. Pour elle, c'était la réponse de Dieu par l'intercession du Père Matteo. Et depuis ce récit que j'ai entendu à table comme par hasard, mais le hasard n'existe pas, je raconte ce témoignage à tous mes pèlerins depuis 10 ans, hein, je le répète, et beaucoup font l'expérience que mettre son image, l'image du Père Matteo chez soi, c'est comme amener un exorciste à la maison. C'est d'où le titre de mon livre,
Eh oui.
Un exorcisme chez vous.
Je pense que, enfin, j'y réfléchissais en préparant cette émission. Je me disais que les gens qui ont des problèmes devraient prendre en photo la peinture qui est à la fin de votre livre et le mettre sur leur téléphone comme écran d'accueil.
Je l'ai déjà depuis longtemps, exactement.
Alors justement, à propos de cette représentation du Père Matteo, nous n'en avons pas une d'origine, mais
Oui.
une qui a été peinte et qui est un petit peu la peinture officielle.
Oui, exact. Elle est la peinture officielle parce que elle a été peinte pour la canonisation, à l'ouverture du procès de canonisation du Père Matteo, et est celle que les personnes reconnaissent comme efficace, disons. Elle ressent la présence réelle du Père Matteo quand elle affiche cette image au mur de la maison ou elle l'amène avec elle. Et elle a été peinte par un peintre local. Qui a étudié avec le père Cipriano comment s'habillaient les capucins du XVIIe siècle, comment donc le père Matteo dans cette représentation amène un livre qui représente ses études sur l'Assomption de la Vierge Marie, montre du doigt la Vierge qui monte au ciel encore et âme. Donc, ils ont un peu étudié l'image qui a été réalisée par ce peintre Dupuy. Et à partir de ce moment-là, les personnes affirment avoir reçu énormément de grâce en priant avec dévotion le Père Matteo et par le biais, disons, dans son image qui représente, qui évoque la présence. Et surtout, cette image semble faire fuir les forces du mal, comme, je le répète, si l'on avait un exorciste chez soi. Mais il faut faire attention parce que l'image du Père Matteo est un puissant support de dévotion, mais il ne faut pas la considérer comme un porte-bonheur et
Bien sûr.
l'utiliser comme si c'était un objet magique, parce que sinon, ce serait de la superstition et nuirait à sa cause surtout. Car l'Église observe toujours si une dévotion est authentique ou déviée. Il faut s'inspirer à la vie du Père Matteo et aussi le prier et utiliser son image avec beaucoup de foi, tout simplement.
Pour rester dans les images, lorsqu'on peut, quand on va sur la tombe du Père Matteo, approcher la photo d'un de nos proches, si on souhaite qu'il soit libéré et vive un exorcisme, et vous dites que oh, il y a les photos qui se collent sur la tombe.
Oui,
C'est
oui, oui,
incroyable.
oui.
Oui, oui, oui.
Oui, c'est incroyable, mais c'est vrai, et tout le monde peut le constater, parce
Oui.
que le Père Matteo continue d'agir aujourd'hui, tout comme de son vivant, et les personnes qui souffrent de troubles diaboliques réagissent spontanément au contact de sa tombe, mais aussi au contact de son image. Il arrive également que des photos déposées sur la tombe, qui est une pierre verticale, souvent les photos de personnes gravement malades, victimes de pratiques occultes, ou de sorcellerie reste mystérieusement collé à la pierre comme un signe de sa protection ou de son intervention. Et il y a aussi des personnes qui restent collées quelques instants. Elles disent qu'elles se sont attirées, se sentent attirées à la tombe et qu'elles n'arrivent pas à se décoller avant quelques secondes. Et ce sont des signes de la présence efficace, de l'intercession efficace du Père Matteo, mon Père spirituel. Dit que c'est comme si le Père Matteo prenait ces personnes à sa
Ah
charge,
oui.
sur lui, pour les aider. Et après, beaucoup, quand les images restent collées, parfois la personne représentée sur l'image, à distance, normalement ce sont des francophones que j'accompagne, donc en France, ressentent quelque chose au même moment que la personne de la famille dépose leur photo sur la tombe. Et après, je reçois souvent aussi après la publication du livre toutes sortes de témoignages de grâce obtenues par son intercession.
Eh bien, écoutez, on va terminer l'émission puisque nous arrivons déjà à la fin, mais je voudrais que vous me disiez donc, cette béatification du Père semble au point mort, comme si elle
Oui.
faisait peur à l'Église. Est-ce que je me trompe?
Oui,
Alors, il nous
alors je
reste
ne
deux
sais pas.
minutes, Patricia.
Si, si. Je ne sais pas s'il fait peur à l'Église, le Père Matteo, mais il est vrai que les exorcistes dérangent parfois parce qu'ils parlent d'une réalité spirituelle que beaucoup préfèrent ignorer. Après la mort de Père Cipriano, qui était le premier vice-postulateur, hein, au lieu de faire connaître le Père Matteo, les capucins responsables actuellement de la cause ont fermé les groupes de prière, ont arrêté les initiatives, supprimé la revue, remplacé son image officielle par une autre qui ne touche pas les cœurs des fidèles. Ils ont fermé le couvent, ils ont retiré le Saint-Sacrement de l'église où se trouve la tombe et ils ne célèbrent qu'une messe par mois pour sa canonisation. On parle même de transformer ce lieu en hôtel. Tout cela donne l'impression que l'on veut effacer la mémoire du Père Matteo. Lors de mon dernier pèlerinage en octobre 2025, j'avais demandé à l'avance au vice-postulateur l'autorisation d'utiliser les toilettes du couvent pour mon groupe. Le lieu étant isolé, on me l'a refusé. Nous avons dû aller dans les champs alors que tous les autres groupes de passagers ont accès. Donc, je me suis plainte au ministre général, au maire de la ville, rien à faire, et je crois que c'est leur réponse au fait que je suis en train d'entraver leur politique d'oubli du Père Matteo. Le Père Matteo les dérange, et peut-être que je les dérange encore plus, et c'est pour cela que je continue d'en parler au service de la vérité. Amen.
Eh bien, écoutez, je pense que nos auditeurs vont vouloir en savoir plus. Je rappelle votre livre, Un exorciste chez vous, Père Matteo Danione. Vous, Patricia Cataneo, merci beaucoup. C'est aux éditions Résiac. Alors, nous n'avons fait qu'effleurer ce qu'il y a dans votre livre qui est riche en histoire, des choses extraordinaires que nous n'avons pas pu rapporter ici aujourd'hui. Mais quelle joie pour vous, chers auditeurs, de découvrir ce livre. Et offrez-le à ceux qui ne croient pas dans les forces du mal, parce que de toute façon, on le voit bien actuellement, elles sont là, mais nous pouvons lutter contre. Donc ne nous privons pas du Père Matteo pour cela. Merci, Patricia. À bientôt.
Merci à vous et merci à tous les auditeurs et à la prochaine, si Dieu
Oui,
veut.
à très volontiers. Bonne semaine, chers auditeurs. Nous nous retrouverons la semaine prochaine avec le Père Didier Ascouette.